Le nom d'André Kayat ne résonne pas toujours bien dans les oreilles des cinéphiles. Considéré comme un réalisateur de films à thèse, le cinéaste a subi les foudres d'une partie de la critique, malgré les succès publics et la reconnaissance de ses pairs. D'abord avocat, l'homme passé derrière la caméra n'aura eu de cesse de traquer les erreurs judiciaires et de dénoncer les injustices. Mais il était aussi un expérimentateur de formes et de récits, comme le prouve son diptyque « La vie conjugale », édité en DVD Blu-ray chez Pathé, qui nous rappelle que l'œuvre d'André Kayat mérite d'être redécouverte.
Une histoire de cinéma. Un podcast revu et corrigé, coproduit par Tsugi Radio et présenté par Antoine Julien.
En 1924, Guillaume Seznec, négociant en bois à Morlaix, est accusé de l'assassinat de son associé Pierre Quémeneur, conseiller général du Finistère. Seznec est condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cour d'assises de Quimper, bien qu'il ait toujours clamé son innocence, et malgré un manque important de preuves, dont le corps de la supposée victime qui n'a jamais été retrouvé. Selon l'accusation, Seznec aurait tué Quémeneur afin de s'emparer d'un terrain possédé par ce dernier, et une des pièces à conviction est un acte de vente falsifié. Même si plusieurs témoins prétendent avoir vu Quémeneur vivant après le moment supposé de son assassinat, Seznec est condamné à la relégation, terme juridique employé à l'époque pour signifier une des peines les plus sévères qui existaient, l'envoi au bagne en Guyane. La famille de Seznec milita tout au long des années 30 pour une révision du procès, mais la campagne n'aboutit pas. Seznec reste au bagne jusqu'en 1947, date à laquelle il bénéficie d'une remise de peine. Le réalisateur André Kayat s'intéresse de près à l'affaire et proposa un premier scénario de l'affaire Seznec à plusieurs producteurs vers 1945, mais il essuya systématiquement des refus. Après de nombreuses réécritures de son projet, il tenta de le tourner à nouveau. Il fit face alors au système de censure cinématographique encore puissant dans la France de l'après-guerre. Jamais tourné à l'exception de quelques premières séquences d'essai, l'essentiel de ce qui reste aujourd'hui de l'affaire Seznec est contenu dans plusieurs dossiers d'archives conservés par la bibliothèque du film à la Cinémathèque française. Il consiste surtout en plusieurs versions du scénario. La version principale, écrite par Kayat et Jean Ferry, prétend démontrer avec force l'innocence de Seznec. À cette époque, la censure la plus redoutée intervenait après le tournage du film et avant toute exploitation, quand les longs-métrages devaient passer devant la commission de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, afin de recevoir un visa d'exploitation. Mais il existait une autre procédure, la pré-censure, qui pouvait indirectement altérer ou même faire disparaître un film avant son tournage. Avant le premier tour de manivelle, une autre instance, une commission d'agrément, nommée par le directeur général du CNC, devait vérifier le financement des films et s'assurer que les conventions syndicales étaient respectées avant d'accorder une autorisation de tournage. Cette commission n'avait pas à statuer sur le contenu d'un projet de film, mais dans le cas du film sur l'affaire Seznec, elle exigea un avis favorable de la commission de contrôle comme condition pour autoriser le tournage. Quelques années plus tard, Jean de Baroncelli, critique de cinéma au Monde, interviewa André Kayat, qui décrivait lui-même le déroulement du processus. « Il est inexact de dire que mon film a été interdit par la pré-censure. L'interdiction est venue de plus haut. La commission d'agrément commença par décider qu'elle ne donnerait pas son visa tant que le film n'aurait pas reçu un avis favorable de la commission de contrôle. Lorsque je voulus ensuite présenter mon scénario à cette commission, on me fit comprendre la vanité de ma démarche, le ministre de la Justice s'opposant de toute manière à ce qu'on tourne l'affaire Seznec. » Après 1000 tergiversations, on m'accorda enfin l'autorisation de tournage, mais les difficultés de tous ordres qui furent faites à mon producteur rendirent vite cette autorisation inutile. Nous dûmes renoncer au projet. Aucune trace écrite n'est conservée de la procédure qui a empêché le tournage. Outre l'article du Monde, qui n'est paru qu'en 1955, la censure du projet est évoquée dans plusieurs articles de journaux généralistes et de revues corporatives, à la radio, à la télévision et dans deux dossiers assez longs de l'écran français. Un bras de fer au sujet de Seznec entre le producteur du film, Sacha Gordine, et le CNC aurait eu lieu peu avant la publication des articles de l'écran français qui date d'avril 1951. D'après ces articles, le ministère de la Justice était impliqué dans l'histoire et le ministre de la Justice lui-même, René Meyer, serait intervenu, allant jusqu'à menacer Kaya de poursuites judiciaires s'il tournait le film malgré son opposition. Dans des interviews qu'il donna à la télévision en 1955 et à la radio en 1957, Kayat exprima son intention de revenir plus tard à l'affaire Seznec, mais cette seconde tentative n'a jamais pu se produire à cause de la mort de Guillaume Seznec. Renversé par une camionnette, celui-ci meurt des suites de ses blessures le 13 février 1954. comme Sesnek lui-même était pressenti pour jouer un rôle central dans le film, sa mort entraîna également la mort du film. Une forme d'injustice ultime, un projet qui ne verra jamais le jour, mais qui démontre la volonté farouche d'André Kayat, l'homme qui est passé des prétoires des palais de justice au plateau de tournage. André Kayat est né à Carcassonne le 3 février 1909. Il a 15 ans en 1924 quand son cousin l'abbé Sévrac, nouvel aumônier des prisons à Carcassonne, est chargé d'assister un condamné à mort qui avait clamé jusqu'au bout son innocence. Le jeune prêtre, qui avait en vain supplié qu'on le démette de cette mission, ne dort pas de la nuit et s'effondre quand la tête tombe dans le panier. Il ne s'en remet pas, dépérit et meurt 2 mois plus tard. Dès lors, André Kayat n'aura de cesse de militer contre l'imbécile peine de mort. À 18 ans, en 1927, il fait son service militaire au 38e régiment d'artillerie coloniale de Nîmes. Il s'y lie d'amitié avec un autre appelé René Char. Ensemble, les deux poètes impétrants jouent au rugby, conspuent l'ordre bourgeois et fréquentent les maisons closes. Kayat s'inscrit aux côtés de René Nelly et Joël Bousquet dans le mouvement du surréalisme méditerranéen, puis fonde au début de l'année 1928, avec le soutien parisien de Marcel Sauvage, une éphémère revue littéraire toulousaine, Transit. Kayat publie même un premier roman, Artaban, en 1928, dans lequel il chronique les violences de la guerre d'Espagne et les dérives du monde politique des années 30. Licencié en lettres, il entreprend par la suite des études de droit à la faculté de Toulouse, au terme desquelles il devient avocat au barreau de la ville. Au printemps 1933, encore stagiaire, il prépare pour l'avocat Philippe Lamour le dossier en défense du journaliste Maurice Privat, attaqué en diffamation par Louis Kemner, un procès périphérique à l'affaire Sesnek. Scandalisé par les failles de l'institution judiciaire, Kayat décide de se reconvertir dans le journalisme et l'écriture. En 2 ans, il publie 4 romans, dont une satire, l'affaire Perrière, qui fustige les mœurs de la province et de la presse. Lorsque la mobilisation générale est décrétée à la suite de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, il est affecté comme sergent à l'école des officiers de réserve du 11e régiment d'infanterie. Après la défaite française, il continue de mettre ses talents d'écrivain, mais cette fois au service du cinéma. En 1941, il écrit les dialogues du Club des Soupirants, produit par la Continental, une compagnie allemande aux ordres de Joseph Goebbels, dirigée par Alfred Greven et noyautée par le Parti communiste où se cachent des résistants. C'est avec la Continental qu'André Kayat commence en 1942 sa carrière de réalisateur en tournant La Fausse Maîtresse. Avec le peu de moyens qu'imposent les restrictions, parfois entre 2 bombardements, il y tourne 4 films. À partir de septembre 1944, durant l'épuration, il est inquiété par le Comité de libération du cinéma français que dirige Jean-Paul Le Chanois. Il faut attendre décembre 1945 pour obtenir enfin une relaxe. Il est même officiellement reconnu comme résistant au titre des forces françaises de l'intérieur. Il revient sur les plateaux de tournage avec Le Dessous des cartes en 1948 qui plonge dans les méandres de l'affaire Stavisky. Mais c'est à l'orée des années 50 que Kayat entreprend sa série judiciaire qui va l'installer durablement comme le réalisateur de films à thèse. Dans Justice est faite, en 1950, il dénonce les imperfections de la justice. Dans Nous sommes tous des assassins en 1952, il livre un réquisitoire implacable contre la peine de mort. Et dans Le Dossier noir, en 1955, il pointe les carences d'une instruction sous-financée. Les films sont des succès publics et récompensés dans les plus grands festivals. Justice est faite remporte l'Ours d'or à Berlin et Nous sommes tous des assassins, le prix du jury à Cannes.
Bollini, votre grâce a été refusée. Soyez très courageux.
C'est difficile. Mais je vais essayer. Pour l'exemple.
Aux assises, vous avez déclaré que vous n'aviez pas tout dit sur cette affaire.
Nous savons nous taire. Et jusqu'au bout. Mais il ne faut pas croire que mon histoire est finie avec moi. Un autre sera descendu. Sa grâce aussi, le président l'a refusé. S'il y a de la casse, ce sera pour vos pieds.
Juno, je fais appel à votre sentiment de l'honneur. Tenez-vous bien.
Je fais ce que je peux. Mais je comprends pas. J'ai tué un homme qui m'avait fait du mal. Qui pouvait se défendre. À vous, j'ai rien fait. Et vous risquez rien. Si j'ai eu tort, pourquoi vous avez raison?
Mettez votre veste.
Je peux m'asseoir, c'est bon. C'est les jambes dont tient le plus peur.
Voulez-vous écrire une dernière lettre?
La dernière lettre, elle est dans mon casier depuis 187 jours. Nous, quand un homme a manqué à l'honneur, on se dépêche un peu plus.
Je la remets à votre avocat.
E per mamma. E dite che sono morto per avere dei gossi che da me ha imparato.
A di ciarare lui.
Allons.
Mon ami, je peux pas lui dire au revoir. René, il y a 5 cigarettes dans mon casier. Je te les donne. René, j'y vais.
Emmenez-le.
Ah non, doucement. Je veux bien y aller s'engueuler, mais... Je veux pas y courir.
Pourtant, s'il y en a bien qui méprisent le cinéma d'André Kayat, ce sont les jeunes turcs de la Nouvelle Vague, et tout particulièrement François Truffaut. Dans la revue Art, il écrit ceci. C'est une chance que Kayat ne s'attaque pas à la littérature. Il serait capable à l'écran d'acquitter Julien Sorel. Emma Bovary en serait quitte pour la préventive et le petit twist irait se faire rééduquer à Savigny. Il y a aussi le « si les gens du cinéma prennent Kayat pour un avocat, les gens de robe le prennent pour un cinéaste ». André Kayat serait-il un traître ? Pour le dossier noir, Truffaut avait aiguisé sa plume. Tout est dit ou presque lorsqu'on en a déploré que chaque film d'André Kayat est pire que le précédent et constaté que le dossier noir n'échappe pas à la règle. En résumé, toujours selon ces termes, le cinéma de Kayat est tout simplement grotesque de fausseté. Pour l'anecdote, Kayat, par rancunier, paiera quelques années plus tard à Truffaut, qui était le trésorier du comité de défense de la Cinémathèque française, son adhésion au mouvement de soutien à Henri Langlois, évincé par le gouvernement. D'autres reprochent au cinéaste son manichéisme et son didactisme, filmant des personnages conçus exprès pour avancer l'argumentation rhétorique, sans âme ni subtilité, virant parfois la caricature. Ces critiques virulentes contribueront à ce que le cinéma d'André Kayat soit ainsi déconsidéré et gommé de la mémoire collective. Ce que déplorait Bertrand Tavernier à l'occasion de la rétrospective de son œuvre, donnée lors du Festival Lumière en 2019. Ces films sont des témoignages irremplaçables sur les années 50-60. La presse a eu peur de ce qu'on a appelé son côté film à thèse. Mais c'est un procès injuste. Son cinéma dépassait largement cela. Il avait des personnages très fouillés, vivants, parfois même atypiques. Je crois au fond que le problème était idéologique. Une certaine partie de la critique regardait avec méfiance ce cinéma social. C'est la Nouvelle Vague qui l'a ignoré. Et doyons me rappeler il y a peu qu'en dehors de René et Varda, la Nouvelle Vague était constituée de personnalités plutôt marquées à droite. Ils ont toujours détesté le cinéma social, ce cinéma qui montrait toutes les facettes de la France, la paysannerie, les bidonvilles, les marges. À partir des années 60, la grande tendance du cinéma va consister à éliminer la classe ouvrière du tableau. On va mettre une chape de plomb sur le monde populaire, ce monde décrit par Henri Verneuil, Julien Duvivier, Henri Decoing ou Claude Antan-Lara. Kayat prend le relais. Pour que le cinéma s'intéresse de nouveau au peuple, il faudra attendre 68 et Kayat fut l'une des grandes victimes de ce prisme idéologique. Au début des années 60, André Kayat a besoin de renouveau et veut surtout bouleverser la forme cinématographique. Pourquoi ne pas tourner deux films qui raconteraient la même histoire ? Pendant 3 ans, le cinéaste travaille sur un projet périlleux, le plus excitant de sa carrière, selon ses dires. Réaliser 2 films d'apparence contradictoire sur un couple, l'un du point de vue du mari, l'autre du point de vue de la femme. Pour l'aider dans son entreprise, Kayat consulte Simone de Beauvoir, qui se plonge dans la rédaction d'un texte de 200 pages pour prouver au cinéaste que son projet est irréalisable. Mais Kayat ne désespère pas et mène une vaste enquête auprès de la population française dans laquelle on demande à des couples de raconter les 10 grands moments de leur vie conjugale. Dans la majorité des cas, les épouses et leurs maris apportent des souvenirs totalement différents. Ces réponses rassurent le réalisateur qui finit par venir à bout de l'écriture de La vie conjugale, dans laquelle Marie-Josée Natte interprète Françoise et Jacques Charrier son mari Jean-Marc. Comme Kayat le raconte dans une interview donnée au journal Le Monde en janvier 1964, la mémoire agit comme un filtre et qu'un événement déterminant pour vous a pu être, pour votre partenaire, sans importance et sans signification. Je ne défends aucune thèse, mais je serais content que l'expérience de Françoise et de Jean-Marc permette à un homme de regarder sa femme avec cette inquiétude qui suscite l'intérêt et le respect. Le mariage ne doit pas reposer sur une illusion, mais sur une création permanente. Mais surtout, le cinéaste, à travers ce dispositif inédit, veut bousculer le confort du spectateur, comme il le précise dans cette interview donnée pour la télévision française au moment de la sortie du film.
Ce que j'ai voulu même, c'est faire du spectateur un élément actif du spectacle cinématographique. D'habitude, le spectateur regarde un film, il lui plaît ou ne lui plaît pas, il l'accepte ou il ne l'accepte pas, mais il est obligé de le subir du commencement jusqu'à la fin. J'ai voulu que le spectateur intervienne. Et il peut intervenir de trois façons. D'abord, en choisissant l'ordre dans lequel il voit les films. Ensuite, en déterminant lui-même le délai dans lequel il verra le deuxième après le premier. Et enfin, ayant vu les deux, il a, lui, la faculté de construire un troisième film qui est sa version, à lui, de l'histoire de ce couple.
Avez-vous, vous, personnellement, une préférence entre votre héros et votre héroïne ?
Non, aucune. J'ai exactement la même sympathie pour l'un et pour l'autre, et je les écoute avec la même crédulité quand ils parlent.
Le cinéaste parvient assez finement à confronter les points de vue des deux époux, et la perception que chacun a de l'autre renvoie au spectateur une image différente du protagoniste. Ainsi, Françoise sera émouvante et sensible dans le film qui lui est consacré, alors qu'elle est égoïste, coquette et snob dans celui sur Jean-Marc, qui passe lui pour un être faible, incapable et apathique aux yeux de sa femme dans Françoise ou La vie conjugale, alors qu'il est actif, passionné et pudique dans Jean-Marc ou La vie conjugale. Dans les deux extraits qui vont suivre, Françoise annonce à Jean-Marc qu'elle est enceinte. Mais les réactions des deux protagonistes, ainsi que leurs échanges, diffèrent très nettement, selon que l'on se situe du point de vue de l'un, puis de l'autre.
Regarde-moi. C'est tout l'effet que je te fais. Françoise, je te demande pardon, je voulais pas te faire de peine. C'est pas un drame d'échouer un examen. Tu seras avocate l'année prochaine.
Jean-Marc, je suis enceinte.
Tu en es sûre?
Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis trop jeune pour avoir un enfant, on peut pas le garder. Il faut que je voie maman, elle seule peut m'aider.
Tu es folle. C'est notre enfant.
Oui, je sais. Tu es prêt à faire ton devoir. Et après, tu m'en voudras toute la vie.
Françoise, quand je voulais demander ta main à ton père il y a 6 mois, j'étais sérieux. Je n'ai pas changé. Cette fois-ci, il ne pourra pas la refuser.
Oh, Jean-Marc, j'ai eu si peur. Qu'est-ce qu'on va devenir?
C'est très simple. On va devenir un père et une mère de famille.
Un enfant. Je savais enfin pourquoi je me battais et pour qui.
Et parce que je connais votre conscience, messieurs les jurés, je sais que vous direz avec moi, cette femme est innocente. Si tu faisais cette tête aux assises, tu prendrais le maximum. La robe, t'étais là quand on l'a livrée? Alors c'est la concierge qui a dû la monter. L'année prochaine, on fera faire la tienne chez Dior. Et je la paierai avec mes honoraires. Tu n'as pas échoué, tu sais. Tu as seulement été reçu par personne interposée. Parce que sans toi, je te prouverai que tu as fait un bon placement.
Un placement de père de famille. Jean-Marc, je suis enceinte.
Tu en es sûre? Françoise, mais tu es formidable. Maintenant, tu es avec moi pour toujours.
Qu'est-ce qu'on va faire?
D'abord, on va se marier. Cette fois-ci, t'y coupes pas. Ensuite, tu t'occupes de rien. Chef de famille, c'est moi. Les problèmes, ça me concerne. Le premier, c'est de trouver de l'argent. Le deuxième, trouver un appartement.
On pourrait...
Quand l'enfant naîtra, j'aurai tout réglé. T'as confiance en moi?
Oui, j'avais confiance en toi. Enfin, je savais que tu étais sincère. Et j'espérais que la naissance de Christine te donnerait le courage qui te manquait.
Les deux films sortent simultanément le 31 janvier 1964 et rencontrent un certain succès. Exalté par cette nouvelle recherche formelle et thématique, Kayat décide d'entreprendre l'année suivante son film le plus ambitieux. Il écrit d'abord une adaptation de l'affaire Carol Chessman, un Américain condamné pour enlèvement, exécuté en 1960 après 12 ans passés dans le couloir de la mort, mais le projet n'aboutit pas. C'est alors qu'il lit, un peu par hasard, le livre de Sébastien Japrisot, Piège pour Cendrillon. La découverte de cette histoire ténébreuse et fantasque, en apparence très éloignée de son univers, l'interpelle immédiatement car elle y retrouve l'essentiel des thématiques qui l'intéressent. Kayat rencontre Jean Anouilh avec lequel il décide de revisiter l'œuvre de Japrisot, ce qui ne ravit pas vraiment ce dernier, peu à l'aise à l'idée de voir un autre grand auteur adapter son histoire pour le cinéma. Anouilh apporte une dimension solennelle et théâtrale dans les dialogues, ce qui plaît à Kayat qui désire accentuer l'artificialité de l'intrigue. Voici comment le cinéaste raconte cette collaboration électrique dans cet entretien donné en 1969. Je suis allé trouver Anouilh parce que je savais qu'il pensait exactement le contraire de ce que je pensais dans tous les domaines. Et effectivement, en 3 semaines, nous avons eu des affrontements très violents, mais qui m'ont permis de faire plusieurs fois le tour complet de toutes les idées que j'avais et qui étaient confuses, mal formulées, reposant trop sur l'intuition. Et finalement, le roman de Japrizo n'a été qu'un prétexte, puisque, à part le fait qu'il y avait 2 filles dont l'une pouvait avoir tué l'autre, tout a été modifié. L'intrigue suit une jeune fille, victime d'un incendie, qui se réveille amnésique dans une clinique. On lui dit qu'elle s'appelle Michelle, l'héritière d'une riche industrielle, et que sa cousine Dominique a péri dans l'incendie. Mais elle va bientôt découvrir une vérité plus trouble.
Avant d'être ici, dans cette chambre, vous ne vous rappelez vraiment rien ? Vous passiez vos vacances dans le midi. Une nuit, il y a eu le feu.
Comment il a pris le feu ?
Une fuite de gaz, il y a eu une explosion.
Pourquoi tu ne me disais pas que j'avais une amie ?
Ce n'était pas précisément une amie, c'était une cousine à toi qui était venue habiter quelque temps avec nous.
Qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Elle a été brûlée. Elle est morte.
Comment elle s'appelait, ma cousine ?
Elle me disait que vous étiez comme 2 sœurs quand vous étiez petite. On vous appelait Miedo.
Mais tu es très jolie. Quelle surprise.
On est du même bord, toutes les deux, ma petite. Regarde. C'est elle et c'est toi.
Je veux savoir ce qui m'est arrivé. Je te hais. Je te hais. Je te hais.
Piège pour Cendrillon est sans conteste l'une des œuvres les plus visuelles de la filmographie d'André Cayatte, et ce plan d'escalier vertigineux en contre-plongée sous influence hitchcockienne en est sans doute la plus belle signature. Mais la critique, de plus en plus sévère avec le cinéaste, ne le souligne guère, à l'exception de quelques plumes qui louent l'inventivité du film. Piège pour Cendrillon est aussi un échec commercial, alors que le réalisateur était habitué au succès public. Le film ne sera diffusé qu'une seule fois à la télévision en juin 1973, avant d'être définitivement bloqué par Japrizo qui le détestait. Il faudra attendre 2020 pour que Revue et Corrigée ne le ressorte de l'oubli dans une version restaurée par Gaumont. Si les expérimentations d'André Cayatte n'ont pas convaincu à l'époque, le cinéaste se résout à revenir à ses passions judiciaires et un fait divers particulièrement marquant va attirer son attention.
Non sais comment prendre. Mis labios pronuncié la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que en el corazón latí. La pena de una ausencia que es más dura que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que en mi corazón latí. La pena de una ausencia que es más dura que el morir. Tomo consuelo antes de partir para sentirme dichosa, dulce bien y mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel y que se siente lacerada del dolor por una ausencia triste y cruel. Qué duro es el destino alejándome de ti.
L'affaire Gabriel Russier secoua la France des années 60. Une professeure agrégée de lettres, Gabriel Russier, âgée de 32 ans, fut condamnée à 1 an de prison avec sursis pour enlèvement et détournement de mineurs suite à sa relation amoureuse avec l'un de ses élèves, Christian Rossi, âgé de 16 ans. Mais le procureur, qui souhaitait une peine plus lourde, fit appel du jugement. Gabriel Russier entra alors dans une profonde dépression. Elle finit par se suicider le 1er septembre 1969. Quelques semaines plus tard, devant l'émotion suscitée par sa mort qui a bouleversé la France, le journaliste Jean-Michel Royer interpelle le président Georges Pompidou lors de sa conférence de presse.
Michel Royer, Radio Monte Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis que, en fin de parcours, on nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ?
Vous Je vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs.
Si Kayat ne reprend pas les noms des principaux protagonistes, il s'inspire fortement de l'affaire. Dans le film, intitulé « Mourir d'aimer », Gabriel Russier est renommé Daniel Guénot et son amant Gérard Le Guen. C'est Annie Girardot qui campe cette femme déterminée à vivre son amour au-delà des convenances et des lois, aussi très engagée politiquement, l'histoire se déroulant durant mai 68. André Kayat a été révolté et indigné par cette tragique histoire, comme il l'exprime avec force dans cette interview donnée pour la télévision.
J'ai été très indigné par cette histoire. Et c'est un sujet qui m'a intéressé avant même la mort de Gabriel Russier. C'est une histoire qui m'a profondément touché à une époque où j'étais dans le Midi, où les journaux locaux rendaient compte du procès qui était intenté à cette jeune femme, agrégée de l'université, professeure à un lycée, qui était traitée exactement comme une criminelle qu'on avait arrêtée chez elle, amenée dans une prison, mêlée à des prostituées, jetée dans une cellule, comme si elle avait commis un crime, alors qu'il s'agissait d'une femme d'une grande sensibilité, loyale, fine, profondément cultivée, et dont le seul crime était d'avoir aimé un garçon qui avait 17 ans mais qui en paraissait 25, alors qu'elle, qui en avait 30, en paraissait 20. C'était un couple banal, un couple ordinaire, et ce qui m'a choqué là-dedans, c'est à la fois l'inadaptation des lois, l'inhumanité du système judiciaire et le comportement de magistrats qui était comparable à celui d'une machine électronique, qui se sont comportés exactement comme des robots. Si on avait pris un cerveau électronique, si on avait dans une fente glissé deux fiches, une, monsieur X né le, madame Y né le cerveau électronique aurait établi la différence d'âge et prononcé une peine qui était proportionnelle à cette différence. Les gens qui ont jugé cet homme et cette femme ne les avaient vus ou l'un ou l'autre, n'ont jamais vu ensemble et l'un et l'autre, et j'ai rencontré depuis les magistrats qui ont eu là-dedans une attitude déterminante dans ce drame, et qui à ce jour encore n'ont pas vu le garçon qu'ils continuent d'imaginer comme un enfant. C'est ça qui m'a indigné, c'est ça qui m'a amené à faire ce film, parce que j'ai réalisé qu'en France, en 1969, en 1970, nous étions trouvés, nous Français, tous responsables, ou par ignorance, ou par omission, ou par indifférence, ou par complicité, d'un procès de sorcière. Il y a eu en France, en 1969, un procès de sorcière, et qui s'est terminé, comme les procès de sorcière du Moyen-Âge, par l'exécution, la mise à mort d'une femme. Voilà pourquoi j'ai fait le film.
Le film sort en janvier 1971 et rencontre un immense succès populaire avec près de 6 millions d'entrées. André Kayat remporte, lui, le Grand Prix du cinéma français. Mourir d'aimer devient un phénomène de société et Annie Girardot atteint un tel degré d'empathie auprès du public qu'elle va devenir la comédienne préférée des Français. André Kayat réalisera encore quelques films avant de mourir d'une crise cardiaque quelques jours après son 80e anniversaire en 1989. Désormais, les villes de Carcassonne, Narbonne, Perpignan, Auch, Le Mans ont toutes leur rue André Kayat. C'était une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma en partenariat avec Tsugi Radio. Retrouvez une histoire de cinéma sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Revue et Corrigée. Je vous retrouve très bientôt pour un numéro spécial d'une histoire de cinéma.